Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které šetří...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit, sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Taiwan.
...in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere and under the authority and trust...
Dotyczyły one spraw bardzo ważnych.
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Le chef du gouvernement soviétique Nikita Khrushchev a envoyé un télégramme de félicitations au cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, qui pour la première fois dans le monde a effectué un vol cosmique. Cher Yuri Alexeyevitch, dit ce télégramme, j'éprouve une grande joie à vous féliciter chaleureusement à l'occasion d'un exploit héroïque éminent, le premier vol cosmique à bord du vaisseau Sputnik Vostok. Tout le peuple soviétique est en admiration devant votre glorieux exploit qui vivra dans les siècles en tant qu'un exemple de courage, de vaillance et d'héroïsme au service de l'humanité. Le vol que vous venez d'accomplir ouvre une page nouvelle dans l'histoire de l'humanité dans la conquête du cosmos et emplit le cœur des soviétiques d'une grande joie et de fierté pour leur patrie socialiste. Je vous félicite de tout cœur de votre heureux retour du voyage cosmique sur le sol natal. Je vous embrasse. À vous revoir bientôt.
Le 14 avril 1961, Nikita Khrushchev salue l'héroïsme de Yuri Gagarin, le premier homme à avoir volé dans l'espace. Les États-Unis félicitent poliment ce stimulant exploit. Célébré triomphalement sur la place Rouge, son buste recouvert de médailles, Gagarine incarnera pour longtemps la victoire temporaire de l'Union soviétique dans la conquête de l'espace. Emilia Robin.
Le 12 avril 61, c'est le premier vol habité autour de la Terre. C'est la première fois qu'un humain quitte l'attraction terrestre et va dans l'espace. Ce n'est pas la première fois qu'on lance quelque chose de façon efficace dans l'espace. Il y a eu le 4 octobre 57, le Sputnik, qui veut dire explorateur, qui était en pratique un petit satellite qui faisait bip-bip, qui était en orbite autour de la Terre, mais un bip-bip qu'on pouvait capter dans les radios ordinaires, et ce qui affirmait de façon éclatante que les Soviétiques étaient en avance sur les États-Unis et sur l'ensemble du monde dans le domaine de la conquête spatiale. Alors quand on parle conquête spatiale, il y a évidemment tout le versant positif, le versant d'exploration, de découverte, de victoire scientifique, et qu'on retrouve en fait dans l'essor des séries télévisées sur le thème d'exploration spatiale. Star Trek, c'est les années 60. Il y a ça, mais il y a également la maîtrise du ciel. Et la maîtrise du ciel, la maîtrise du vol spatial, cela veut dire la maîtrise des lanceurs intercontinentaux, la maîtrise de lanceurs à longue distance, pour des charges évidemment nucléaires. Donc il y a à la fois un message scientifique positif et il y a un message militaire très clair. Un mois plus tard, on met en orbite la petite chienne Laika, donc c'est toujours un programme soviétique. Elle va mourir dans l'espace au bout de quelques jours, mais un être vivant a été en orbite autour de la Terre. Les Américains perçoivent parfaitement cette concurrence que lancent les Soviétiques et très vite les développent un programme qui est d'abord centré sur les satellites, évidemment. Le premier satellite de communication, c'est en 1958. Le premier satellite météo, c'est en 59. Le premier satellite de reconnaissance, donc d'observation, potentiellement militaire, c'est 60. Le premier satellite géostationnaire, donc pouvant rester en place au-dessus d'un endroit donné du globe, c'est en 63. Donc tous ces satellites qui nous semblent très courants maintenant sont en fait des progrès de la fin des années 50 et début des années 60, et évidemment se perfectionneront. Là-dedans, Gagarine, c'est le premier homme à aller dans l'espace, et Gagarine est une figure idéale. Il est né en 34, donc il a 27 ans, il est beau, il a un très beau sourire, il est sympathique, il a une carrière... exemplaire du point de vue du modèle soviétique à défendre. Il est né de parents très modestes. Son père était charpentier, sa mère était laitière dans un kolkhoz. Il avait 7 ans quand la guerre commence. Son village est envahi par les Allemands. Deux de ses frères et sœurs sont déportés. Leur maison est détruite. Ils ont vécu dans un trou creusé dans la terre. Il a fait des études techniques assez ordinaires de machinisme agricole. Mais comme il avait une passion pour l'aviation, il est devenu pilote de chasse. Et donc, pour l'URSS, c'est la figure idéale de
l'homme soviétique.
De l'homme soviétique, l'homme de la Terre, qui, grâce au système soviétique, peut révéler toutes ses capacités. Dans le cas du vol de Gagarine, les soviétiques n'ont pas voulu mettre en danger la vie de leurs pilotes. Et sur ce point précis, ils ont planifié avec les pays voisins et avec les autres pays les lieux d'atterrissage possibles, autorisé des missions de récupération de Gagarine, donc potentiellement de technologie soviétique par d'autres pays, justement dans l'hypothèse de sauver la vie du pilote si quelque chose devait lui arriver. En pratique, il a atterri en URSS. Mais donc, le vol de Gagarine est l'un des grands moments dans cette course à l'espace que se livrent les États-Unis et l'URSS, qui verra un mois après le vol de Gagarine, Kennedy déclarer « Avant la fin de la décennie, nous irons sur la Lune ». Et cela se concrétisera de fait avec la mission Apollo 11 et Neil Armstrong, mais aussi Buzz Aldrin, qui marche sur la Lune le 21 juillet 69. Donc il y a cette concurrence qui est à la fois technologique, scientifique, mais également militaire, qu'il ne faut pas oublier. En fin de compte, ce qui est une concurrence et une compétition va aboutir à une coopération au milieu des années 70, dans un contexte qui a beaucoup changé. En 1975, il y a une mission commune Apollo-Soyouz, enfin une première en fin de compte qu'on compare avec ce qu'était la conquête spatiale 10 ans auparavant.
On parle de cette coopération scientifique, de cette coopération technique, mais qu'en est-il de la coopération dans le domaine de la recherche spatiale, qui engage aussi tout simplement des humains, des chercheurs, des techniciens américains et russes? Vont-ils travailler véritablement ensemble parfois?
Alors il va réellement y avoir du travail en commun pour des raisons simples. Il faut standardiser les équipements. Il faut qu'une navette américaine puisse s'amarrer à une station soviétique sans problème. Il faut que les claviers de commande soient lisibles par les uns comme par les autres. Il faut des standardisations. Il y a des coopérations techniques réelles. Les techniciens pouvaient travailler ensemble, mais probablement avec des choix de compartimentage de l'information, d'information partielle, d'accréditation modulée pour que les réels secrets ou les réelles technologies ne risquent pas d'être diffusées, ou même si l'espionnage joue son rôle.